Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Le journal Jocelyne Moussa Oponde.
Fin hier à Kinshasa, du sommet des chefs d'État signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, Félix Tshisekedi a encouragé ses homologues à poursuivre leurs efforts pour consolider la paix et la sécurité dans la région. Des impacts négatifs sur l'environnement et la santé de la population d'un village de Fungurume au Lualaba, c'est ce que révèle le rapport de l'Observatoire des ressources naturelles en Afrique australe dans un rapport publié mardi dernier. L'usine à chaud de la compagnie TFM est accusée. Radio Okapi célèbre son 20e anniversaire aujourd'hui, vendredi 25 février. À l'occasion, nous recevons Léonard Moulamba, le tout premier secrétaire de rédaction et premier rédacteur en chef congolais de la radio onusienne. Bonjour à tous. Poursuivons nos efforts pour consolider la paix et la sécurité dans la région et également pour rapprocher nos peuples par des projets intégrateurs qui vont très sûrement assurer le bien-être et le développement à nos peuples respectifs. C'est par cette exhortation que le président Félix Tshisekedi a conclu son message de la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, réunion qui s'est tenue du 22 au 24 février 2022 à Kinshasa. Selon le président de la RDC, sa politique du dialogue et de la main tendue envers les pays voisins qui sous-tend son action diplomatique déjà porteuse de quelques avancées avantageuses pour la sous-région. Les propos de Félix Tshisekedi dont cet extrait est sélectionné par Honoré Missenga.
C'est notamment dans la défense de cet intérêt national aux implications régionales que certaines avancées ont pu être observées. On peut citer, entre autres, les bons offices fournis en 2019 par la République démocratique du Congo aux côtés de la République d'Angola dans le processus de dialogue amorcé entre la République de l'Ouganda et la République du Rwanda dans le but de préserver la paix et la concorde entre les deux peuples. Dans le même ordre, je tiens à souligner avec admiration le résultat fructueux de négociations entre la République démocratique du Congo et la République de Zambie en vue du règlement pacifique du différend frontalier.
Notons qu'au cours de ce sommet, le président congolais Félix Tshisekedi a succédé à son homologue ougandais Yoweri Museveni à la tête du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Ce sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba a débouché sur une série de résolutions portant notamment sur la promotion du dialogue et des processus politique inclusive, le renforcement de la coopération sécuritaire et judiciaire contre les forces négatives, la promotion de l'intégration régionale ainsi que la promotion du rôle des femmes, des jeunes et de la société civile. La rencontre a également permis aux parties prenantes à réaffirmer leur détermination dans la mise en œuvre de cet instrument juridique qu'est l'accord cadre d'Addis Abeba. Suivez un extrait de la lecture de ces résolutions par le rapporteur des travaux choisi par Honoré Missenga.
Les chefs d'État et de gouvernement réaffirment qu'ils ont fermement résolu à mettre en œuvre l'accord cadre qui permet de s'attaquer efficacement aux causes et aux facteurs de conflits et d'instabilité dans la région. Se félicitent de l'adoption de la stratégie des Nations Unies pour la consolidation de la paix et la prévention et le règlement des conflits dans la région du Grand Lac 2020-2030 et appelle instamment à la mise en œuvre rapide de son plan d'action 2021-2023.
Notez que 7 chefs d'État ont personnellement pris part au sommet de Kinshasa, ceux de l'Ouganda, du Congo-Brazzaville, de la RCA, de l'Angola, de l'Afrique du Sud, du Burundi et de la RDC. Le Rwanda, la Tanzanie et le Soudan ont été représentés par leur premier ministre et le Kenya ainsi que la Zambie par leur ministre de la Défense. Le numéro 2 de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, ainsi que le représentant de l'Union européenne ont également pris part aux travaux. Retenez que la 11e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba se tiendra au Burundi. Quittez la brousse, enrôlez-vous officiellement au sein de l'armée afin de servir le pays sous le drapeau national. C'est le message de l'armée adressé à toutes les milices encore actives dans les territoires de Lubero. L'armée appelle également la population à renforcer sa collaboration avec elle, car c'est le mécanisme le plus efficace pouvant aider à solutionner les problèmes sécuritaires dans la région. Le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole du secteur opérationnel Le Sokola 1, est au micro de Marc Marofimbo.
Le seul mécanisme le plus efficace, c'est la collaboration entre l'armée et sa population. Au-delà des ADF qui commettent des actions de terrorisme dans notre région de Béni, il y a aussi les enfants du terroir qui se sont enrôlés dans le groupe Mai Mai et qui profitent pour commettre des actions. Aujourd'hui, nous avons mis la main sur plus de 5 jeunes qui se réclament du Mai Mai dans le Bachou et malheureusement qui tuent leurs frères. Personne ne peut comprendre ça. Comment un Congolais peut tuer un Congolais pour ses intérêts? On n'arrive pas à comprendre. Le seul message que je peux lancer aux jeunes qui n'arrivent toujours pas à comprendre, c'est que la vie humaine est sacrée. Même leur vie est sacrée. Donc, ils doivent comprendre et quitter vite la brousse et regagner les milieux pour le développement de leur région. Nous sommes obligés de travailler ensemble. Si nous avons besoin de manipuler les armes, l'armée est là. Il suffit de s'enrôler officiellement et aller servir les pays sous drapeau national.
Je l'ai dit dans les titres, l'usine à chaud de la compagnie TFM de la multinationale China Molybdenum a des impacts négatifs sur l'environnement et la santé de la population du village Kabomboa à Fungourmé, dans la province du Lualaba. C'est ce que révèle le rapport de l'Observatoire de ressources naturelles en Afrique australe dans un rapport publié mardi dernier. D'après ce rapport, les résultats des analyses des laboratoires sont préoccupant. Les populations connaissent des irritations cutanées, des problèmes respiratoires. Il y a la pollution de l'eau et de l'air ainsi que l'assèchement des rivières. Georges Bokondou, directeur de programme de SARO RDC, fait des recommandations au micro de Jodine Kachama. On reviendra sur cet élément français dans notre édition de 8 heures. Pour l'instant, rendons-nous en Ituri où environ 6000 personnes sont recrutées par le Fonds social de la République pour servir de main-d'œuvre pour les travaux d'entretien des rues des différents quartiers de la ville de Bounia et à l'intérieur de la province, selon la chef d'antenne de cette institution publique en Ituri. Et c'est dans le cadre du projet STEP 2 qui a pour objectif de fournir une aide financière aux personnes vulnérables affectés par les conflits qui déchirent la province depuis 4 ans. Les détails dans ce reportage de Clarisse Zindoula.
Depuis le 15 février dernier, ces hommes et femmes sont déployés chaque matin dans les 24 quartiers de la ville de Bounia pour aplanir des rues. Parmi eux, des déplacés de guerre qui ont fui les atrocités des groupes armés. Pour ces bénéficiaires, ce recrutement est une opportunité pour la survie de leur famille qui peinait à nouer les deux bouts du mois. L'un d'eux, père de famille et désœuvré depuis plusieurs années, exprime sa gratitude.
En fait, je suis content de ce que Fonds social a fait pour nous. On doit aider nos familles, nos parents, nos enfants, avec un peu que nous allons trouver. Ici. Nous sommes reconnaissants envers le chef des fonds sociaux.
Selon les autorités de la ville de Bounia, ce projet contribue également à améliorer la sécurité au chef-lieu de la province. Les rues entretenues et dégagées vont faciliter l'accès rapide des forces de l'ordre pour des interventions de secours en cas de danger. Le bourgmestre de la commune de Bounia, Jean-Marie Fouamba.
Ça pourra nous permettre, service de sécurité, de se rendre sur les lieux. Ils ont la facilité d'intervenir au moment opportun. Donc c'est une bonne affaire. nous avons salué cette intervention du Fonds social.
Signalons que ces travaux d'entretien de route vont durer 5 mois pour un coût total d'environ 450 millions de dollars pour 5 provinces de la RDC. Bounia, Clarisse Zindoula, Radio Okapi.
Développer le capital humain, la gouvernance et les infrastructures, ce sont quelques-unes des recommandations à même d'aider la RDC à émerger. Ceci ressort d'un plan présenté hier jeudi à Kinshasa par l'Observatoire économique et des managements de l'Université Bell Campus. Ce document est dénommé « Réformes majeures proposées dans le plan du Congo démocratique émergent ». Il compte plus de 1300 pages. Léopold Bossekota, fondateur et président du conseil d'administration de Bell Campus, explique l'importance de ce travail. Il est au micro de Priscilla Badjoko et d'Andy Bompela.
Pour l'émergence, il faut d'abord qu'il y ait un plan de développement, un plan d'émergence qui doit embrasser tous les secteurs du pays. Cela va de la gouvernance institutionnelle en passant par tous les secteurs, l'agriculture, les mines, les transports, etc. Bell Campus a répondu à l'appel du chef de l'État qui avait demandé que les universités et les centres de recherche puissent aider les autorités à définir et à exécuter des politiques publiques par rapport aux enjeux démographiques, économiques, pour permettre à la RDC d'être sur la trajectoire de l'émergence comme le font les autres pays. Mais on ne peut pas improviser, raison pour laquelle ce travail scientifique permet au gouvernement de travailler d'une façon ordonnée et surtout ce qui ne se faisait pas avant. Le plan d'émergence que nous avons proposé donne des indications précises où l'État peut chercher le financement nécessaire pour mettre en œuvre ce plan.
La présentation a eu lieu devant des enseignants de cette université et de plusieurs autres de la capitale, ainsi que de plusieurs autorités de la place. Dans la province du Maniema, 1 634 127 personnes, soit 54% des ménages de cette province, sont exposés à l'insécurité alimentaire. Révélation faite mercredi par l'Institut national de la statistique lors de l'atelier de présentation et d'analyse de la réponse aux résultats de l'évaluation de la sécurité alimentaire des ménages en situation d'urgence. Atelier organisé par le ministère provincial de l'Agriculture en collaboration avec l'Institut national de la statistique et le Programme alimentaire mondial. Le territoire le plus exposé, c'est le territoire de Kabambaré. Florence Kizalunga, reportage.
Selon Innocent Kadeker, directeur de l'INS Sud-Kivu, ces données collectées en août 2021 montrent que parmi ces 54%, 26% des ménages sont en insécurité alimentaire sévère. 3 territoires de la province sont plus touchés.
Les territoires les plus exposés, qui ont une proportion supérieure à la moyenne de la province, nous avons le territoire de Kabambaré qui a 69,4%, alors que la moyenne de la province est de 54%. Du territoire de Punia qui a 68,0%, c'est largement supérieur aussi à la moyenne provinciale qui est de 54%, et Lubutu qui a 58,1% est largement aussi supérieur à la moyenne provinciale qui est de 54%.
Mais qu'est-ce qui est à la base de cette insécurité alimentaire? Innocent Kadekere répond.
Il y a les causes conjoncturelles dont les chocs subis par les ménages, la persistance des poches de l'insécurité, il y a l'effet de la pandémie. De la COVID-19. Il y a les maladies des plantes, diverses maladies de bétail, la destruction des cultures par les animaux sauvages.
Les gouverneurs intérimaires appellent à la mobilisation de tous pour lutter contre ces fléaux. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Les fortes pluies qui s'abattent sur la province du Haut-Lomami ont causé d'énormes dégâts dans tous les 5 territoires qui composent cette province. Le secteur le plus touché est celui de l'éducation. Ne sachant que faire, des milliers d'élèves se retrouvent dans les sites miniers car leurs parents sont dépourvus des moyens pour leur survie et ont donc perdu pour la plupart leur champ. Le détail avec Jean Gandou.
L'alerte est lancée par le président de la commission chargée des catastrophes naturelles et les dégâts causés par les pachydermes à l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. Pour le député provincial Paul Senga, les dégâts causés par la pluie sont énormes et plongent la population locale dans un grand désarroi, car déjà paupérisée par les pachydermes qui ont dévasté de nombreux champs. Pire encore, dans d'autres territoires, plusieurs champs sont inondés. Comme si cela ne suffisait pas, des dizaines d'écoles sont écroulées, obligeant ainsi les élèves à rejoindre les carrières minières. D'où ce cri de détresse du député provincial Paul Senga.
Le bilan actuel a été établi après conciliation ici des administrations locales, sociétés civiles, chefs coutumiers, des entités touchées. Le total est de 136 écoles écroulées, plus de 8 à 10 000 élèves en déperdition scolaire. Cette alerte urgente est lancée au gouvernement central pour intervenir urgemment, surtout dans les secteurs éducationnels. Là, nous lançons les cris de détresse au ministre de l'EPSPET pour qu'il puisse nous prêter une oreille attentive.
À noter qu'en dehors des infrastructures scolaires, on compte aussi certaines structures sanitaires qui sont touchées. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'Alliance Atlantique est aussi une alliance nucléaire, a rappelé hier jeudi le ministre français des Affaires étrangères, alors que la Russie agite la menace nucléaire en cas d'entrave à son offensive en Ukraine. Jean-Yves Le Drian a qualifié le président russe Vladimir Poutine de dictateur et promis des sanctions occidentales qui vont taper au cœur la Russie. Et puis, les États-Unis ont expulsé le numéro 2 de l'ambassade russe à Washington, a indiqué un haut responsable du département d'État hier jeudi en riposte à l'expulsion annoncée le 17 février d'un diplomate américain en Russie. Sergueï Trepelkov a été informé mercredi qu'il devait quitter les États-Unis, a fait savoir ses hauts responsables au moment où les tensions entre les deux pays sont à leur comble en animé par l'invasion russe de l'Ukraine.
L'invité.
Comme annoncé, Léonard Moulamba Kalala, le tout premier secrétaire de rédaction de Radio Okapi et le premier rédacteur en chef congolais, parle du démarrage de Radio Okapi le 25 février 2002, date qui a coïncidé avec le début du dialogue entre Congolais de San City. Alors que le pays était divisé en trois, Radio Okapi, l'église au milieu du village, devait faire entendre la voix de tous les belligérants à travers tout le pays. Léonard Moulamba s'entretient avec Blaise Shindani.
Bonjour Léonard Moulamba, que nous appelons affectueusement Papa Léo.
Bonjour Blaise.
Oui, Papa Léo, aujourd'hui nous allons remonter un peu au 25 février 2002. Nous allons parler du démarrage du projet Radio Okapi. Nous savons que vous, vous êtes resté à Kinshasa, donc vous avez travaillé à partir de Kinshasa. Mais vous pouvez nous dire comment est-ce que vous vous êtes organisé pour travailler avec des journalistes envoyés à San City.
Le 25 février 2002, Radio Okapi a démarré le même jour, bien sûr, que le dialogue intercongolais qui s'est déroulé à Sun City en Afrique du Sud. Moi, j'étais le tout premier secrétaire de rédaction ici. J'étais à Kinshasa. Nous avions des collègues que nous avions envoyés comme reporters à Sun City. Si j'ai bonne mémoire, il y avait Jules Ngala, il y avait Micheline Ichuala, Martin Sebujangwe, Jeanne Kabambi,
Paul Madidi,
Clarisse
Moussem était avec nous.
Oui, voilà. Donc, il y a eu des reporters qui ont été envoyés là-bas, bien entendu, par rotation. Alors, ils avaient pour mission de couvrir ce dialogue intercongolais sur place là-bas et de nous envoyer des éléments à diffuser dans nos différentes émissions, particulièrement dans le journal. Alors, moi, j'avais comme travail de parler avec les correspondants qui étaient à Sun City, d'arrêter l'angle de son travail. Chaque fois, quand on avait des préoccupations ici à Kinshasa, on lui transmettait ça. Il faut voir tel acteur politique, tel acteur de la société civile, etc., pour avoir sa réaction, ainsi de suite. Ici, on avait, je rappelle, tout au début de la radio, feu Ghislaine Dupont, qui travaille avec nous à tout moment, parce que elle avait le rôle de coach, en quelque sorte. On avait également Stéphanie Walter, qui était le tout premier rédacteur en chef. Donc, on faisait ce travail ensemble, ici, à Kinshasa. La MONUC, à l'époque, MONUSCO aujourd'hui, avait mis à notre disposition, et ça continue, on avait des moyens de communiquer, on avait des téléphones qui nous permettaient d'atteindre n'importe quel coin de la planète. on pouvait le faire à l'époque, c'est ainsi qu'on communiquait avec tous ces gens-là. J'avais enfin un répertoire des différentes personnalités du MLC, du RCD, du gouvernement congolais, même des autorités rwandaises, du ministère des Affaires étrangères. On pouvait contacter ces gens à tout moment pour avoir leur réaction. Il y a quelqu'un qui était célèbre à l'époque, hein, Paul Mutaboba, qui travaillait au ministère rwandais des Affaires étrangères. Il était très coopératif parce que chaque fois qu'on avait besoin de sa réaction sur un aspect quelconque, il n'hésitait pas à nous répondre. Voilà en quelque sorte comment nous avons travaillé à cette époque-là.
La Radio Capi vient de naître et puis ça coïncide avec un grand événement du pays. Le pays était divisé en trois. Radio Capi devrait jouer un rôle pour les rassemblements. Comment avez-vous trouvé cette tâche en ce moment-là?
Oui, c'était un grand travail parce que Radio Capi à l'époque a joué aussi le rôle de rassembleur, le rôle de diplomate. Donc nous, on pouvait réunir autour de notre micro, on pouvait réunir les gens des différents...
Donc, les belligérants là.
Les belligérants, on pouvait les avoir autour du micro. La plupart des personnalités politiques d'hier ou d'aujourd'hui, je les ai eues au téléphone. Quand je regarde mon carnet de l'époque, j'ai tout le monde.
Vraiment.
Tout le monde. J'ai tout le monde. On a eu à prendre ces gens, à les faire passer à l'antenne. Oui. Quand il y avait une décision du gouvernement de Kinshasa, on pouvait facilement avoir quelqu'un du RCD Goma qui pouvait s'exprimer aussi sur notre radio pour donner son point de vue. Oui. On pouvait appeler du côté du MLC quelqu'un qui pouvait aussi s'exprimer, donner son point de vue, et on mettait tout ça ensemble, ce qui fait que Radio Capi était apprécié de tous côtés pour ce travail équitable qu'on était en train de faire.
Oui, Clarisse Moussem l'a dit dans son témoignage, elle a bien dit que, en tout cas, eux étaient privilégiés. Les reporters de Radio Capi étaient acceptés facilement par tous les belligérants.
Oui, c'est normal, c'est normal parce que le média gouvernemental, par exemple, ne pouvait pas faire passer le point de vue de quelqu'un du MLC
du RCD,
ou du RCD. Nous, on pouvait faire passer tous ces gens-là. Tout comme aussi la radio du MLC ne pouvait pas faire passer quelqu'un du gouvernement. Ainsi de suite, le RCD, c'était la même chose. Nous, on était vraiment, comme on dit, l'église
au milieu du village. On l'est toujours jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui, on continue à faire ce travail. Avec impartialité.
Merci beaucoup, Papa Léo.
Merci, Blaise.
Et c'est dans cette bonne humeur que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.